Théo, je pense que vous connaissez peut-être, qui est encore jeune, qui a été créé il y a une petite dizaine d'années, au des années début 2000. Et moi, je tiens à vous dire, mais je viens de l'évoquer, qu'on est très heureux d'avoir été associés à travers ces années à votre réflexion sur l'énergie, parce qu'on se sent pleinement de plein pied dans les problématiques que vous souhaitez aborder aujourd'hui, c'est-à-dire les marchés. Tout à l'heure, moi je pense qu'on aurait même pu lire dans notre sujet le marché électrique européen. On est déjà sur un espace européen unifié par des démarchés renvoyant à des notions de nationalité qui, me semble-t-il, ont été franchies depuis longtemps. Réseau, à l'évidence, les réseaux, mais au sens riche du terme, pas réseau uniquement à terme d'infrastructure. Vous avez vécu comme moi la montée de la thématique des réseaux intelligents, promue par, bien entre nous, le monde de l'information, le monde de l'informatique, et on voit bien que les réseaux, ça n'est pas que des pilotes, ça n'est pas que des lignes électriques supportées par ces pilotes, mais c'est clairement derrière de l'intelligence pour accorder demain encore plus d'énergie renouvelable qu'aujourd'hui, pour créer encore plus de solidarité, de mutualisation entre les moyens de production, pour développer des logiques qui ne sont pas du souverainisme énergétique national, mais qui renvoient à un espace pertinent européen. Donc, réseau, encore une fois, prenons ce terme de manière large. Et territoire, oui, l'IDA, c'est votre objet, par définition, mais l'énergie fonctionne en lien avec le territoire. Sur la problématique des réseaux, ce qui est intéressant peut-être de rappeler à l'introduction de cette journée, c'est que les infrastructures de transport, alors d'abord distinguer le transport de la distribution d'électricité, c'est un peu compliqué, il y a deux terminologies différentes. Les réseaux de transport, ça commence à 63 000 volts, juste début de l'homme tension jusqu'à 400 000 volts. Ça, c'est le périmètre de RTE en France. Dans d'autres pays, les frontières sont un peu différentes sur le niveau de tension. Et en dessous, vous avez les réseaux de distribution qui arrivent jusque chez vous, jusqu'à votre domicile. Et ces réseaux de transport, je m'arrêterai au domaine de compétences de RTE, ben, ils ont une histoire. Ils ont été créés il y a un siècle. Ils ne sont pas partis de Paris vers la province comme le réseau ferroviaire, ils sont partis des vallées alpines, pyrénéennes et des vallées du Massif central, donc de l'hydraulique, pour arriver à plus petit à petit dans le reste du territoire national. Et puis dès le début, ces grands réseaux électriques, ils ont été interconnectés avec les voisins. Ah oui, les premières lignes électriques qui étaient dans les Alpes, ils n'allaient en soi que c'était cohérent d'envisager des synergies avec le parc électrique suisse. La même chose dans les Pyrénées. Donc on a une histoire territoriale qui est fabuleuse, notamment, on en parlera peut-être Pierre qui a fait là-dessus tout à l'heure, quand on regarde aujourd'hui la vision que nos concitoyens partout en Europe ont par rapport à ces infrastructures. Il y a un siècle, moi je suis originaire de Béziers, il y a un siècle dans les Pyrénées orientales, il y avait des conseils municipaux qui votaient des motions pour avoir des interconnexions de vallée à vallée, qui militaient pour que l'avantage de l'électricité, de la force hydraulique, ne soit pas uniquement utilisé à vocation d'un canton. J'ai un peu l'impression qu'en un siècle, ça a un peu changé et que l'opinion, elle a cette infrastructure qui est là. C'est un atout de compétitivité. N'oublions jamais que la desserte en bon niveau de qualité d'électricité, c'est un outil de développement du territoire. Si on veut implanter les zones industrielles avec de l'informatique de haut niveau, il faut avoir un niveau de tension satisfaisant. Et en même temps, le regard, on est passé au détour des années 2000 vers le mythe de la visibilité, c'est-à-dire en gros cacher ces pilotes que je ne saurais voir. François Mitterrand, qui en 65 avait mis un pilote derrière son affiche de campagne pour la présidentielle 65, j'ai peu vu en 2007 nos deux principaux leaders politiques pour la gauche et pour la droite utiliser le pilote comme symbole du progrès. Et pourtant, le pilote des réseaux, c'est un élément de la modernisation de l'espace public national et européen. Et pourtant, Barack Obama, l'an dernier, même pas élu, avait mis dans son programme électoral des pages entières sur des investissements de modernisation afin que le réseau américain soit pas uniquement avec des câbles et des pylônes plus modernes et moins rouillés, mais aussi en même temps doté d'intelligence pour pouvoir permettre d'interconnecter peut-être demain l'ensemble du territoire américain, ce qui n'est pas le cas. Les États-Unis ont trois zones électriques, l'Est, l'Ouest et l'île du Texas au milieu. Et on a donc, on a en Europe un avantage de compétitivité à travers ces infrastructures sérieuses. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. puis surtout, bien entendu, moi j'en resterai avec vous s'il y a quelques questions avant de passer le premier de terminal de RTE. Alors, le lien entre RTE et l'IDAT, il est récent et il est dû à Frédéric, qui est tout à l'heure avec vous aux démarches de la session. Frédéric a été auditrice en 2005. Et Frédéric travaille dans mon équipe, la direction de la COM des affaires publiques, vient en 2006-2007 en disant il y a un truc qui est formidable, c'est un institut super, ça correspond à notre métier, donc il faut y aller. Donc on est rentré à l'IDAT en 2007, et depuis il y a eu, moi je vais l'indiquer, trois auditeurs et auditrices, où il y a dû y avoir la première année stage GSU, il y a dû avoir ce cycle-là, il y a Stéphanie et Hélène, c'est ça? Donc au total, on a eu quatre de RTE qui ont pu participer à l'Institut, et c'est vrai que beaucoup qui ont été formidables, ben voilà. Je pense que c'est un engagement pérenne pour l'entreprise. Voilà, peut-être on va utiliser ça, c'est peut-être plus simple. Alors, pour introduire un petit peu la journée, j'avais deux, trois slides qui sont assez simples à vous projeter. Cette problématique donc, qui est la mode marché, réseau, territoire, elle correspond à une autre critique qui est la problématique européenne qu'on renvoie souvent, qu'on ramène souvent à cet équilibre entre compétitivité, développement durable et sécurité d'approvisionnement. Et en gros, on termine tout souvent en disant que c'est l'équilibre entre trois villes, Lisbonne, Kyoto, on pourrait d'ailleurs dire plutôt Copenhague, et Moscou. Alors, là où c'est un peu compliqué, c'est que ces trois défis, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas on prend une voie et on la cultive par l'épuisement des autres. Ça m'amène d'ailleurs à l'introduction de ce séminaire. Moi, mon vécu de l'histoire énergétique, j'ai fait des passages au cabinet ministériel, à l'énergie, à l'industrie, au budget. Puis j'ai été délégué général adjoint de l'EDF aux affaires européennes, donc les sujets énergétiques. Ça fait des années que je vis un peu de l'espace politique, principalement de l'entreprise. Bah, on se rend compte que par rapport à 10 ans, 15 ans, on n'est plus dans des logiques d'exclusion, ni sur cet équilibre entre ces trois notions, ni aussi sur les choix d'énergie primaire. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure à travers l'intervention de Pierre ou d'autres intervenants. Il y a 10-15 ans, régnait à Bruxelles le rêve de l'excommunication entre différentes sensibilités. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des dogmatiques dotées au développement de l'énergie. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un cheminement qui amène quelque part peut-être à considérer qu'à horizon 2020, puisque le terme que l'Europe s'est fixé pour aboutir à des objectifs communs, on aura besoin de toutes les formes d'énergie. Et on est, me semble-t-il, on est dans un schéma où on est moins dans la guerre de tranchées. Et les parties se rapprochent plutôt, je vais dire du sens du terme, d'un objectif commun plutôt que dans un schéma de séparation. Alors il y a des nuances, il y a des différences. Vous évoquiez Philippe tout à l'heure les questions de CO2, de taxation. On voit encore des dogmatismes exister. Certains pays sont encore clivés sur les positions dures, sur le nucléaire par exemple. D'autres, parfois en France, sur les énergies renouvelables. Mais grosso modo, l'évolution des différents pays européens, vous l'avez peut-être vécu quand vous êtes allé à Berlin, quand vous avez fait votre différents circuits, c'est plutôt un schéma où les idées se rapprochent et où il y a un partage. Ah oui, c'est incroyable. Comme ça. Oui, mais on va peut-être fonctionner en sous-nous. Voilà, comme ça. Alors, sur la compétitivité. Compétitivité, on en parlera tout à l'heure avec Stéphane Cossé, qui est mon adjoint qui reviendra là-dessus tout à l'heure. La compétitivité, c'est pour ça d'ailleurs que l'Europe de l'énergie et l'Europe de l'électricité en particulier a été créée. Compétitivité, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que, au détour des années 85-90, la Commission européenne, Jacques Delors, président de la Commission européenne, considère qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait des domaines qui ne soient pas intégrés dans la démarche de construction du marché européen. Et donc l'énergie rentre de plein pied dans cette problématique avec des directives qui arrivent, 96, sur l'électricité, un petit peu plus tard sur le gaz. Et l'idée à un moment donné, que tout client doit pouvoir acheter son énergie dans un autre pays que le pays qui est le sien. Ce système-là, cette vision-là, s'est réalisé, mais à mon sens, et d'autres dans la salle, je pense à Jean-François qui connaît ça, d'autres, c'est réalisé de manière imparfaite. Pourquoi? Parce que le rêve de base de l'Europe, qui était de dire, grâce à ça, grâce à cet espace de compétitivité, grâce au marché intérieur, il y aura une baisse des prix, la baisse des prix n'a pas été au rendez-vous partout à la vitesse espérée. Alors, faites attention aussi de ne pas tomber dans un dogmatisme dans l'autre sens, qui consiste à dire que c'est la dérégulation qui a amené à une hausse des prix de l'énergie. C'est pas aussi binaire, c'est plus compliqué. On est rentré dans un système principalement national, capé avec les prix administrés, à un système différent. Et dans ce système différent, il peut y avoir des oscillations, à la hausse comme à la baisse. Et deuxième question que je vous pose, parce que j'ai quelques idées en tête, mais est-on sûr que dans tous les pays membres de l'Union européenne, cet espace de compétitivité, ce marché intérieur, toutes les entreprises ont joué le jeu? Est-on sûr que parfois il n'y a pas eu des stratégies de rétention, d'obstacles, de partage du marché? J'emploie un peu des gros mots comme des mots d'entente, mais est-on sûr qu'à un moment donné, les entreprises énergétiques européennes, quels que soient les pays, quelle que soit leur structuration passée, ont joué le jeu de la compétition de bon gré? Ben, à l'évidence, leur intérêt commercial, c'était peut-être aussi de garder quelques clients et de garder un avantage de compétitivité à travers un marché national, plutôt que de basculer dans une vision européenne de papier en se disant on va devenir une entreprise participant à ce grand conseil international. Les interconnexions, pourquoi c'est rajouté? C'est simplement parce que ce marché européen ne peut fonctionner qu'à travers des infrastructures d'échange entre les pays. Je vous disais tout à l'heure, les réseaux sont stratégiques. Oui, ils sont stratégiques parce que c'est à la fois le support, le soubassement du marché. Si vous n'avez pas des réseaux gérés de manière indépendante des intérêts des fournisseurs, ce qui est le cas de RTE, on vous expliquera dans les deux jours, nous avons été petit à petit séparés d'EDF en prenant la nature comptable, financier, puis juridique en 2005, parce que notre rôle, c'est d'acheminer les électrons de l'opérateur historique, mais aussi de tous les autres opérateurs européens qui utilisent l'autoroute. Et si sur notre autoroute, on pouvait être suspecté d'absence de neutralité, à un moment donné, c'est tout l'édifice, tout le crédit européen de l'entreprise qui s'effondrera. Donc l'enjeu, par exemple, il y a des problèmes très complexes que les économistes vont vous expliquer mieux que moi. Et quand on met aux enchères des interconnexions entre pays, c'est quelque chose qui doit être géré de manière vertueuse, de manière équilibrée, de manière transparente, et qui ne doit pas être suspecté de favoriser tel ou tel producteur. Si M. Mestralé veut envoyer des électrons à l'Espagne, une centrale belge, à l'évidence, ça passera sur le réseau français. Et à aucun moment, Tractebel ou le groupe GDF Suède ne doit suspecter RTE de favoriser le mouvement d'une centrale nucléaire de l'EDF par rapport aux électrons que Tractebel veut acheminer à l'Espagne. Ce rôle de carrefour des réseaux, c'est fondamental en soi. Quand vous prenez un réseau qui, géographiquement, à des frontières quand même avec beaucoup de pays européens et est un nœud électrique, ce qui est le cas de la France, vous voyez bien qu'on est dans une dimension plateforme de marché qui s'est développée. Dernier point, c'est que ça on l'a fait dans les premières années. Crédit nous a été porté par beaucoup d'acteurs de le faire de manière sérieuse. Et à aucun moment il y a eu de procès d'acquisition sur RTE favorise EDF, ni à Paris ni à Bruxelles. Mais à l'évidence, la question n'est plus aujourd'hui nationale. Aujourd'hui, nous travaillons sur ces questions d'interconnexion à la maille européenne. Un centre de pilotage du réseau européen a été inauguré en début d'année à Bruxelles, qui coordonne Belgique, France, Angleterre, Allemagne, et d'Allemagne, où on voit les flux d'électricité sur cette zone, et ça permet d'anticiper, d'éviter des incidents. Et ça, c'est un outil qui fonctionne. Les enchères sur les interconnexions que j'évoquais, pareil, se font à travers une société commune. Donc aujourd'hui, l'horizon de travail de RTE, sur 8500 salariés, il y en a plusieurs centaines qui sont déjà de facto tous les jours sur du travail de nature européenne. Donc la question elle est moins la question de la distinction par rapport à l'opérateur historique qui était celle des années 2000, que la question de savoir comment, à horizon 5 ans, 10 ans, cette entreprise européenne à son activité le deviendra peut-être encore plus dans d'autres modalités. Sécurité d'appro, je vais peut-être accélérer un petit peu, sécurité d'approvisionnement. Là, je vous renvoie à autre chose que que des éléments clés, mais j'ai une deuxième casquette pour certains ici qui est une casquette de prof, je suis plutôt prof à Sciences Po, et j'ai écrit un livre qui je crois a été distribué, moi vous avez distribué, qui s'appelle L'Europe à pas d'énergie, qui est paru au mois de mai. Et dans ce livre, moi je souligne enfin, à quel point c'est connu par certains, mais on a développé un discours anxiogène en Europe sur les questions d'énergie. L'Europe nourrit une sorte de fantasme, comme dans notre domaine d'ailleurs, hein, les peurs environnementales, on pourra en parler si vous voulez, les champs électromagnétiques. Mais là, en matière de sécurité et d'approvisionnement, on nourrit un discours sur oulala, oulala, il y a M. Poutine et M. Boutefika, et si par hasard ils sont pas gentils avec nous, on va être en difficulté. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai pour certains pays européens. Certains pays européens sont à 100% dépendants du gaz russe. D'autres pays, la France en fait partie, ont un degré de dépendance qui est important mais qui n'est pas non plus dramatique. Et deuxièmement, dans le discours, et c'est la thèse que je prends dans mon livre, à force de parler de sécurité de l'approvisionnement, vous donnez un prix au produit, donc vous faites que l'interlocuteur en face gagne en poids politique. Et c'est toute l'intelligence de Poutine dans sa relation avec les pays de l'Ouest de l'Europe. On oublie trop souvent qu'à l'inverse, les canaux de commande européens pour les pays comme l'Algérie et la Russie sont stratégiques. Et donc, ils sont aussi dépendants que nous, nous envisageons dans nos têtes la relation de dépendance. Donc, ça veut dire que la nouvelle Commission européenne, M. Barroso l'a dit hier, avec les 26 autres commissaires, plus le nouveau Parlement européen, ils auront un vrai boulot pour construire plus des notions liées au partenariat énergétique que des notions liées à la sécurité d'approvisionnement. Sécurité d'approvisionnement, c'est « j'ai peur de toi ». Partenariat énergétique, c'est « je viens vers toi parce que je suis dans une relation qui est une relation de partenaire, quelque part avec une notion d'interdépendance. » Je renverrai aussi ça à un autre dossier, mais on n'aura pas le temps de le voir, hein, qui est la façon dont on voit le développement de l'énergie en Méditerranée et des réseaux autour de la Méditerranée. Il y a un grand projet, je ne sais pas si les Allemands vous en parlez quand vous étiez à Berlin, qui s'appelle DesertTech, qui est un grand projet où on prend le solaire au Sahara, et comme par miracle, il y a un câble que les assureurs allemands financent pour arriver à Aix-la-Chapelle. C'est très sympa, il n'y a pas de problème, mais déjà que nous, un réseau public, pour arriver à construire quelques kilomètres sur le territoire national, c'est assez compliqué. J'imagine que quand on va arriver du côté de Fos-sur-Mer, qu'on va expliquer aux citoyens français que c'est l'assureur allemand qui construit pour... Ça va être une partie de plaisir assez marrante. Et deuxièmement, face à des pays qui ont des taux de consommation électrique qui montent de 8, 9, 10% pays du sud de la Méditerranée, s'il y a du solaire qui va se développer, ce qui est une priorité, c'est, me semble-t-il, plutôt pour favoriser la conversion et la transition entre le pétrole et le gaz qui sont nos ressources d'aujourd'hui et l'énergie de demain. Donc, je m'interroge sur ce projet dans une certaine vision qui est une vision, je ne vais pas employer un gros mot, mais une vision un peu coloniale du domaine. Si, à un moment donné, le solaire se développe, c'est une nécessité, au nom de l'Europe comme au Sud, mais pour le Sud et face aux besoins, à l'évidence, il faut qu'on remette des cartes peut-être un peu différentes. Dernier point, c'est développement durable, mais là j'irai plus vite parce que vous avez un expert parmi les experts à ma droite. Donc je pense que à travers le pilotage scientifique du colloque, du séminaire de jour, plutôt, il aura l'occasion de le développer, donc je laisserai Pierre développer ce point. Donc simplement, en conclusion peut-être, une chronologie des initiatives en cours pour vous donner un petit cadre juridique des évolutions, parce que c'est important. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ça démarre avec une directive de décembre 1996 sur le marché de l'électricité qui ouvre le marché crescendo, d'abord les clients industriels, puis les PME, les PMI, puis vous et moi au 1er juillet 2007 en France, sachant que d'autres pays avaient eux ouvert tout de suite, très vite, en Bretagne et d'autres. Donc nous en France on a appliqué cette directive en utilisant le délai maximum qui nous était donné. La directive gaz arrive deux ans après avec les mêmes principes. Et on voit les directives concernant donc la libéralisation ultérieure, la deuxième qui arrive en 2003, et toutes les discussions récentes, vous en parlerez peut-être dans les deux jours, sur le troisième paquet énergie qui a été adopté avant l'été par le Conseil des ministres de l'énergie, et qui est la dernière formule, avec un débat un peu théorique, un peu idéologique sur séparation de propriété des réseaux. En gros, la question qui était posée depuis 2007, c'était est-ce que une entreprise comme RTE peut rester avec une vraie majorité variée aux mains d'un fournisseur. Question qui a donné lieu à beaucoup de batailles, beaucoup d'oppositions, et à la fin une conclusion assez polymorphe, où finalement les États pourront choisir entre différentes formules très compliquées, très techniques. Ce qui m'amène à dire aussi à quelques minutes que on est, me semble-t-il, dans ces 13 ans d'histoire, on a plutôt développé une technicité des sujets à travers les règlements et les directives, mais on n'a pas parlé aux citoyens européens. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, c'est une vraie question démocratique. Sur les questions d'énergie, il faut trouver des sujets qui soient expliqués de manière simple, compréhensible. Moi, j'ai l'habitude souvent, quand je suis, non pas devant un public d'experts comme vous, mais quand je suis devant des gens qui sont moins à même sur des questions d'énergie ou d'organisation de la société, de prendre des exemples. Les électrons qui arrivent à la tour initiale ce matin, je ne sais pas de quel pays européen ils sont. Ils sont peut-être grecs, ils sont peut-être tunisiens, parce que le réseau synchrone européen des 27 pays interconnectés fait que leur origine géographique est appelée. Et de la même manière, je suis incapable de vous dire s'ils sont nucléaires, s'ils sont éoliens. Donc ça parle aux gens quand on le dit, et ça fait comprendre aussi une notion de solidarité et d'échange. Quand Perpignan est dans le noir le 26 janvier 2009 à cause de la tempête Klaus, et on l'a fait expliquer aux habitants des Pyrénées-Orientales que c'est grâce à l'Espagne qu'il n'y a pas un phénomène plus prolongé. Parce que Perpignan a vécu à Nantes, donc uniquement avec une ligne venant d'Espagne pendant quasiment une semaine. Ça parle aux gens. Autre sujet, mais vous l'avez entendu clairement aussi, c'est les questions d'accès à l'énergie. Il y a 10 ans, ces questions de droit à l'énergie, de prix de l'énergie, étaient des questions qui étaient considérées comme relevant du domaine patrimonial uniquement de quelques ONG qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, la crise aidant, le prix de l'électricité et du gaz est une question qui est sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les États régler cela eux-mêmes, avec quelque part des mécanismes protectionnistes et favorables plutôt à leurs opérateurs? Ou est-ce que l'Europe, comme elle l'a fait sur les aides régionales, elle met en place des mécanismes pour régler les questions de pauvreté énergétique? Là aussi, feuille de route de la prochaine Commission européenne, feuille de route du prochain Parlement européen, on ne peut pas sur ces sujets être que déconnecté avec des messages techno. Ça ne passe plus. Donc voilà, moi c'était un petit peu tout ça. Donc vous aurez comme intervenant de RTE Stéphane Cossé, qui est mon adjoint, qui rentrera en détail sur tous ces éléments-là et que Pierre connaît. Et vous aurez demain, donc Hervé Lafay, qui est directeur général adjoint, qui assurera la conclusion de ce séminaire. Moi je vous souhaite de bien travailler.